Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là. Sous la neige, mais en fait, dans mon studio quand même, bien au chaud, mais sous cette neige quand même avec vous tous, pour vous accompagner partout au Québec pour ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Demain, l'Institut universitaire en gériatrie de Montréal offre une conférence gratuite sur la prévention et le traitement du zona. On sait qu'il y a à peu près 20 % de la population nord-américaine qui va développer un zona au cours de sa vie. Ça peut être plutôt... pas toujours dans tous les cas, mais ça peut être douloureux, un zona. Je pensais qu'il était pertinent d'en connaître les symptômes parce que c'est également important d'agir le plus vite possible quand on est touché ou qu'un proche l'est. Je vais en parler avec le docteur David Lucier, lui, médecin gériatre et directeur de la clinique de gestion de la douleur chronique de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, je voulais vous parler rapidement d'une petite conversation que j'ai eue avec ma mère, pas plus tard que dimanche, par téléphone, qui me dit « Marianne, ce serait bien que tu me fasses ta liste de cadeaux de Noël. » Et je dis « Ben, je sais pas trop de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. » Elle me dit « Ça serait vraiment important que tu le fasses parce que ça m'enlèverait un petit peu de stress. Je saurais quoi t'acheter. » C'est en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Je parle de ça. Comment on peut éviter la pression inutile, éviter le stress pour passer de meilleures fêtes, de belles fêtes avec nos proches et la famille, avec Camille Lousakia, lui psychologue, conseiller principal du Bureau d'éducation en santé mentale de l'Institut Douglas et vice-président de l'organisme Phobie Zéro. Bonjour Camille Lou.
Bonjour Marianne.
Vous avez bravé la tempête pour être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver.
C'est un plaisir pour moi aussi.
Et de parler de ce sujet-là qui sera d'ailleurs également dans le cadre d'une conférence que vous allez présenter à l'Alpabem, organisme qui vient en aide aux personnes qui vivent avec un souci de santé mentale et leurs proches, là, surtout du côté de Laval. On donnera toutes les coordonnées à la fin de l'entrevue. C'est le 16 décembre à 19h, cette conférence. Mais pour revenir à cette petite anecdote, je sais que vous aimez ça et elle est réelle. J'avais l'impression que j'avais du mal à répondre à ma mère parce que je me disais « qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse? » Puis au fond, ben, c'est pas une robe de chambre ou un CD ou un livre qui va nécessairement changer ma vie. Peut-être que si, dans un autre contexte, peut-être plus défavorisé, là, ça serait différent, mais c'est pas ça qui change quelque chose à mon bonheur. Donc, j'en ai pas vraiment de besoin.
C'est ça. En effet, la question de Noël, on a tellement de traditions, il y a tellement de sens à ça. Mais en général, ça, c'est devenu quelque chose où il y a des tâches à faire, des repas à préparer, des cadeaux à acheter, puis ça devient un autre stresseur, un autre défi. Puis pour se débarrasser, on veut savoir qu'est-ce que tu veux.
Ouais, ben oui, voilà.
Ça simplifie leurs tâches. Et ça met le focus sur l'achat et les besoins.
Les biens, oui, c'est ça.
Mais est-ce que c'est vraiment des besoins qu'on a? Est-ce que c'est la seule chose qu'on devrait penser? Quand je pense à moi-même, à les cadeaux qui me touchent le plus, je dois dire personnellement, le fait que mon fils a décidé de jouer une chanson sur le violon il y a 2 ans, il a pratiqué longtemps pour faire ça comme fête, j'ai pleuré pendant une demi-heure. Une autre fois, ma fille, quand elle était petite, elle m'a acheté un CD de Duke Ellington chez Walmart. Elle avait 3-4 ans, quelque chose comme ça. Puis c'est pas un CD qui est très bon, c'est du genre de 5,99. Mais elle a dit à sa mère, « Daddy likes the Duke ». Pour une raison ou une autre, elle a noté que j'avais quelques musiques de Duke Ellington, puis elle a pensé à moi et qu'est-ce que moi j'aime. Donc ça me touche beaucoup quand quelqu'un prend le temps de penser de moi. Et donc, le sujet de la conférence, c'est vraiment de faire des connexions avec des gens et de regarder un peu plus loin que juste le cadeau. Qu'est-ce qui est important pour la personne? Et des fois, c'est un appel. Des fois, c'est comme j'ai toujours une note dans ma tête d'appeler ma cousine Marie qui souffre de schizophrénie, qui est souvent seule. Donc, je prends le temps de rendre sa journée peut-être plus connectée avec des gens. Vraiment, pour moi, le sens de Noël, c'est de célébrer la connexion entre les êtres humains. Et c'est naturel pour plusieurs des personnes, mais il y a mm-hmm. aussi des gens qui sont plus isolés, particulièrement quand on parle de problèmes de santé mentale,
oui.
choses comme ça.
Oui. Est-ce que, et vous qui êtes psychologue du côté de l'Institut mm-hmm. universitaire en santé mentale, Douglas, est-ce que les gens qui vivent avec une problématique de santé mentale sont plus stressés à l'approche de la période des fêtes?
Plus stressé. Bon, le stress est un problème pour tout le monde durant les fêtes.
Oui, ben oui.
Tous les défis, évidemment, tous les défis nous stressent. Et le mieux qu'on peut répondre à ces défis, le moins qu'on est stressé. Par exemple, ouais. si j'ai beaucoup de dépenses à faire, ça augmente mon stress. Si j'ai plus de moyens pour payer ça, j'ai moins de stress. C'est sûr que les gens qui sont plus marginalisés ont plus de problèmes à faire ça. Ils ont plus de dettes comme le reste du monde. Mais ils ne sont ouais. pas nécessairement plus stressés, je crois. Ce qui est plus problématique pour les autres, c'est l'isolement.
Ouais.
Parce que souvent, certaines maladies vont mettre les relations en conflit. Les gens ne sont pas toujours capables de ressentir les mêmes choses qu'une autre personne. Des fois, il y a des arguments, il y a des gens qui comprennent mal ça, ils nous poussent, ils nous encouragent.
Il y a des préjugés encore, même au sein de la famille.
Exactement. Donc, à cause de ça, souvent, ils se trouvent tout seuls. Et le problème avec les fêtes, une réalité des fêtes, c'est que c'est tellement bien, on se fête, on partage du temps avec la famille.
On mange.
On mange, on mange et on mange, on mange. Mais plus que ça, je pense qu'on souligne l'importance de la connexion entre les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ou qu'est-ce que ça implique? Les gens qui n'ont pas cette connexion-là, on souligne leur solitude.
Uh-huh.
Et c'est pour cette raison que des fois, les fêtes sont parmi les temps les plus difficiles pour les gens qui sont marginalisés.
Oui. Parfois, la famille, c'est un facteur de protection, Camille, mm-hmm. Camilo. Parfois aussi, c'est encore plus douloureux d'être auprès d'eux. Il faut même s'en protéger ou éviter les réunions familiales.
Well, il faut dire que des fois, quand on parle de troubles de personnalité ou les gens difficiles, peu importe les systèmes de diagnostic qu'on utilise, les troubles de personnalité, on va les voir en cours souvent et durant les dîners de fête.
Ouais.
Ça, c'est sûr et certain. Donc, les gens qui sont rigides, les gens qui sont contrôlantes, les gens qui sont méfiants, c'est sûr que ça cause des problèmes. Et j'ai beaucoup de gens on connaît tous des gens qui ont des conflits avec une personne ou une autre.
Oui, tout à fait.
Et des familles. Des séparations, des nouveaux séparations, des familles composées, une nouvelle blonde de papa ou de nouvelle chum de maman, les belles-sœurs ou belles-frères avec qui on ne s'entend pas.
Mm-hmm.
Des fois, de voir nos parents qui sont en conflit une avec l'autre, c'est sûr qu'à cause des fêtes, on les oblige d'être ensemble.
Ouais.
Et ça peut toujours présenter un autre défi.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des moyens de s'en protéger? Sans éviter, sans dire « OK,
oui.
on se voit
Écoute,
pas ».
Il y a des gens qui disent « je vais plus voir ma mère, je vais plus voir mon frère, etc. » Mais c'est presque impossible de le faire. C'est sûr qu'il y a des funérailles, il y a des fêtes, où de temps en temps, on est obligé d'être ensemble. Avant tout, je pense qu'on ne peut pas toujours éviter. Hein? Ce qui est important, c'est de ne pas essayer de régler les conflits durant ces temps-là, particulièrement si on a bu
ouais.
un petit peu.
Mm-hmm.
Souvent, c'est ça qui provoque un argument. Quelqu'un qui décide que, pour une fois, il aimerait juste dire clairement qu'est-ce qu'ils ont à dire. C'est pas une bonne idée durant les fêtes. On n'a pas besoin de prétendre qu'il n'y a rien, mais au moins de traiter l'autre personne d'une façon cordiale. Et des fois, juste de passer un bon temps ensemble, ça pourrait commencer à réparer la relation. Et si nécessaire, on pourrait toujours dire, peut-être on devrait se revoir une autre fois,
ouais.
une autre fois ensemble, quand on a le temps de réfléchir et d'avoir un autre contexte.
Mm-hmm. Est-ce qu'on est trop exigeant envers nous pendant souvent pendant l'année, on l'est, mais pendant la période des fêtes, c'est-à-dire faire de la bonne nourriture, acheter le bon cadeau, avoir une belle robe, être de bonne humeur, en forme, en tout temps?
Écoute, c'est toujours bien de vouloir faire des choses correctement et tout ça, mais ça peut devenir un fardeau quand on veut trop. quand on veut trop que ça soit parfait, on rêve de dire « Oh mon Dieu, j'aimerais que la daine soit bon et brune et tout mm-hmm. le reste. » Et que les personnes arrivent à l'heure et finalement quelqu'un est en retard, il y a un autre problème, il y a un dégât, il y a le daine est brûlé, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on se rappelle? On ne se rappelle pas de ces détails-là. On se rappelle du temps que quand j'étais jeune, je me rappelle que... Ou quand on voit un vieux monsieur, on dit « Ah, je me rappelle quand il était plus jeune. » Donc, ça nous donne une opportunité de vraiment simplement vivre une période de vie avec des gens proches. Et la nourriture, les cadeaux, vraiment, c'est un contexte, mais c'est pas des détails importants. Ce qui est important, c'est d'être ensemble. Je vais vous conter une petite anecdote.
Oui.
Quand j'étais à l'école, nouvellement marié, j'avais pas d'argent du tout, j'avais des briques avec un contreplaqué pour mes étagères. Et on achetait un petit arbre de Noël. On n'avait pas de décoration. On a pris des morceaux de carton. On a mis du papier. Et j'avais besoin de quelque chose pour l'arbre, pour le haut de l'arbre. J'ai pris un carton, j'ai coupé une étoile. Je l'ai mis en aluminium, papier aluminium. Et j'ai créé une étoile pour l'arbre
de
Noël,
mm-hmm.
le sapin de Noël.
Mm-hmm.
Et vous savez que maintenant, 33 ans plus tard, la dernière chose qu'on fait sur le sapin, c'est qu'on sort cette étoile toute maganée, toute vieille, que j'ai faite à main. Et chacun de nos enfants ont leur tour à mettre ça sur le sapin. Et pour moi, ça symbolise la vie qu'on a passée ensemble. Et quand on fait ça, on se rappelle du temps, on se rappelle de ces relations. Pour moi, le facteur le plus important de Noël... Pour cette raison, si ma maison brûle, la première chose que je vais aller chercher, c'est cette étoile de Noël. Donc, pour moi, c'est vraiment de juste célébrer les relations qu'on a, les connexions entre les gens, s'ils sont famille ou non, juste même aussi les voisins, n'importe qui, serrer la main et dire que vous êtes important mm-hmm. dans ma vie.
Je reviens à tout à l'heure quand on parlait de l'isolement qui guette les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale. Quand on y est sensibilisé, comme on tente de le faire aujourd'hui, Camilo, ensemble, on fait comment pour tenter de, si on en a dans notre entourage, que ce soit notre voisin, notre cousine, notre oncle, pour les sortir de cet isolement-là pendant les fêtes?
C'est pas toujours facile, évidemment. Des fois, on a une tendance de parce qu'on comprend pas, on sait pas qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, on a tendance de peut-être
on
juste...
On a peur un peu hein, ouais. de la différence, des fois.
Mais je vais vous donner un secret. Le secret, c'est que les gens sont... On peut avoir une conversation normale avec. mm-hmm. Il y avait un monsieur qui était toujours à la porte d'une entrée du Douglas, un des pavillons. Il demandait à tout le monde qui passait de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Donc, tout le monde essayait de contrôler ce monsieur-là.
Ah oui?
Et j'étais tanné du fait que la seule chose que je connaissais de lui, c'est qu'il avait besoin d'argent tout le temps. Donc, un jour, je lui dis, « C'est quoi ton nom? » Il me donne son nom. « C'est quand ta fête? » Il me donne sa fête. Je dis, « Bonjour. Écoute, j'aimerais qu'on ait une autre relation. J'aimerais que tu simplement me demandes comment je suis. Je vais te dire, et je vais te demander aussi. Si j'ai du café, je vais te donner mon café. Je vais te donner... de l'argent à ta fête, et je ne vais pas l'oublier parce que c'est la même journée que ma femme. Ça, c'est facile. Je vais te donner l'argent jour de l'an, Noël. Le reste du temps, je vais juste dire bonjour et tu vas me dire bonjour. Mm-hmm. OK, c'est beau. Et depuis ce temps-là, chaque fois que je le voyais, je le saluais. Puis de temps en temps, j'avais un café pour lui. Et on a amené notre relation à une relation plus directe et plus personnelle au lieu de juste « c'est un malade mental qu'on essaie d'éviter ». Donc, des fois, juste de prendre le temps de demander comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font, prendre intérêt dans leur vie.
Oui.
C'est ça qu'ils ont besoin, parce que souvent, on les évite à cause de ça.
Mais Camilo, ce que j'entends par là, c'est que vous avez réussi à aller plus loin dans une relation parce que, premièrement, vous avez mis des limites à quelque part et vous avez exprimé un besoin, c'est-à-dire, moi, j'aimerais que ça se passe de cette mm-hmm. façon-là. Mm-hmm. Donc, il faut être capable de nommer également les choses. Mm-hmm.
Oui, c'est un bon point. En effet, ce que j'avais demandé simplement, c'est que je voulais avoir une relation plus normale avec lui.
Oui.
Et c'est pas si difficile parce qu'on est capable de faire ça avec un voisin. On salue, comment vas-tu? et on commence à parler de sa vie. On peut faire la même chose, peu importe qu'est-ce qu'il souffre. Si quelqu'un souffre d'une psychose, on a peur de déclencher quelque chose. Écoutez, ce sont des êtres humains, on peut leur parler normalement. Ils ne sont pas menaçants, ils ne sont pas dangereux. Et le plus qu'on rentre dans leur vie, le plus qu'on prend l'intérêt, le plus qu'ils sont connectés à nous, plus qu'ils vont nous faire confiance s'il y a un vrai problème. En effet, on a tous le droit d'avoir ça.
Oui, et peut-être que plus on les inclut, plus justement c'est un facteur d'apaisement et de protection là, pour eux aussi.
Oui, en effet, ça c'est très important parce que souvent quand ça dérape vraiment, c'est souvent quand les gens arrêtent leurs médicaments ou qu'ils ne font pas confiance, ils n'ont pas pris des rendez-vous. C'est sûr que le plus qu'on les marginalise, le moins qu'on peut voir ces choses-là. Si on les évite et ils ne nous font pas confiance, on a tendance de ne pas s'apercevoir de ces problèmes-là. Et c'est ça qui peut causer des problèmes comme des tentatives de suicide ou autre chose où la personne se trouve à l'urgence tout le temps.
Mm-hmm.
Prenez un intérêt dans la vie de ces gens et vous allez voir que souvent, ça va prévenir beaucoup de problèmes.
Mm. En terminant, Camilo, parce que je profite de votre présence pour vous demander cette question-là, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Aujourd'hui, dans une société, on doit se l'avouer, de consommation, dans une période de l'année où l'on consomme énormément pour soi, pour les autres, bien sûr, par amour, hein, souvent, par générosité, mais il y a toujours un risque d'abondance, de surabondance dans tout ça. On fait comment pour juste apprécier ce qu'on a déjà et revenir à l'essentiel?
Une autre grosse question, évidemment. Il n'y a pas j'ai pas de réponse précise, mais c'est une question, des fois, de juste sortir de l'émotion de tout ça. Parce que quand on est dans un état émotionnel de culpabilité ou d'anxiété, choses comme ça, ça contrôle nos comportements plus que si on est capable de juste prendre le moment de se calmer avant tout et dire qu'est-ce qui est important. En termes d'argent, par exemple, c'est pas toujours nécessaire de dépenser autant qu'on dépense. Souvent, on dit « j'aimerais démontrer que je l'aime, donc je vais donner plus de cadeaux ». C'est pas nécessairement ça. Comme je dis, le cadeau que ma fille m'a donné était 5$.
Oui.
C'est juste le fait que...
C'était pas ma main, bon.
Elle m'a démontré qu'elle pensait à moi. De dire à quelqu'un, tiens, ça c'est qu'une fois, par exemple, j'ai acheté des billets pour Riverdance, pour ma nièce, parce qu'elle danse. Et j'ai vu ce spectacle, je dis, elle va l'adorer. Et je m'en foutais du prix, je dis, je veux que tu vas voir ça. Puis je l'ai acheté. Et elle a vu ça le lendemain que moi je l'ai fait. J'ai envoyé ma femme avec. Elle a adoré ça. Puis je suis certain qu'elle va se rappeler de ça toute sa vie. Donc, au lieu de penser à plus pour régler notre sens de culpabilité ou pour démontrer l'amour, peut-être juste prendre le temps de dire des choses, des fois de écrire quelque chose de personnel à l'individu ou de dire « j'aimerais juste te dire une telle affaire, pourquoi je pense que tu es important dans ma vie ». Et des fois, comme je dis, un cadeau peut être un symbole qui ne coûte pas cher.
Oui. Et la présence, finalement, devient le plus beau des présents,
oui.
Camilo Zakian.
Exactement.
Alors, on a abordé un petit peu les thèmes que vous allez aborder le 16 décembre prochain à l'Auditorium Réal du Bord, hôpital de la Cité de la Santé. Oui, tout ça, c'est à Laval. C'est une conférence qui est gratuite. Les inscriptions sont obligatoires. Vous pouvez aller, sur le site de l'Alpabem, alpabem.qc.ca. Les cadeaux de Noël, besoins ou désirs, entre autres choses, là, vous allez aborder ces questions-là, Camilo Zakian. Je rappelle que vous êtes psychologue, conseiller principal du Bureau d'éducation en santé mentale de l'Institut Douglas, vice-président de l'organisme Phobie Zéro. Ça a été un plaisir de vous revoir et je vous souhaite à vous, à votre femme, à votre fille, à votre fils et à toute votre famille un très, très beau temps des fêtes.
Merci, Marianne. C'était un grand plaisir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour, David Lucier.
Oui, bonjour.
Si on sait que le zona peut survenir à n'importe quel âge, on sait également que les personnes qui ont entre 50 et 70 ans sont plus sujettes d'être atteintes du zona. Donc, quand on est médecin gériatre comme vous, David Lucier, j'imagine que c'est assez pertinent d'en parler dans le cadre d'une conférence. C'est ce que vous allez faire dès demain du côté de l'Institut universitaire en gériatrie de Montréal. Mais on est là pour en parler un petit peu aujourd'hui. C'est un petit peu terrifiant quand on va voir les photos de gens qui vivent, qui ont le zona. C'est quoi, en fait? C'est un virus, une infection, une maladie de peau?
En fait, c'est un peu plus qu'une maladie de peau. C'est un virus. Et en fait, c'est le virus de la varicelle. Donc, quand on est jeune, on attrape le virus là, par contact, habituellement, soit par un toucher ou même par les airs. Puis on fait une varicelle. La varicelle guérit, mais le virus demeure dormant au niveau des ganglions nerveux dans notre corps. Puis le virus va demeurer dormant pendant plusieurs années. Puis à un certain moment, habituellement, quand le système immunitaire devient diminué, la raison la plus fréquente, c'est l'âge avancé.
Ouais.
Mais ça peut aussi être une maladie immunitaire ou une chimiothérapie ou quelque chose comme ça. Là, le virus va se réactiver. Puis à ce moment-là, ça va donner ce qu'on appelle un rash, donc des vésicules, des boutons sur la peau. Mais c'est plus que ça. On voit beaucoup ce qui est sur la peau, mais il y a aussi un dommage au niveau nerveux, puis il peut y avoir aussi des complications parce que le virus n'est pas seulement au niveau de la peau, mais aussi au niveau du système nerveux, puis il peut être dans tous les organes du corps en même temps.
Si on a eu la varicelle, est-ce qu'on est plus sujet, donc, à développer le zona?
En fait, si on n'a pas eu la varicelle, on n'aura pas le zona.
Ah, d'accord. OK.
La seule façon dont on peut avoir le zona, c'est une réactivation du virus de la varicelle.
Okay.
Donc, il faut avoir eu la varicelle pour avoir le zona. Mais dans les pays occidentaux, comme le Canada, c'est 97 % des gens qui ont eu la varicelle. Donc, c'est presque tout le monde. Même ceux qui disent « je ne l'ai pas eu », ils l'ont eu, mais ils l'ont eu assez léger qu'ils s'en sont peut-être pas rendus compte.
Ou trop petit, ils ne s'en rappellent plus.
Exactement.
Oui. Donc, du moment où on a eu la varicelle, on peut être sujet de développer un zona.
Tout à fait.
Oui. Bon, on l'a dit, personnes âgées qui sont un petit peu plus sujets à être touchées par la maladie, est-ce que c'est contagieux?
C'est-à-dire que le zona n'est pas contagieux. Le zona ne va pas donner le zona. Ce que le zona peut donner, c'est la varicelle. Donc, si quelqu'un a un zona et que quelqu'un d'autre est près de lui qui n'a pas eu la varicelle, il peut attraper la varicelle par le zona. Mais comme presque tout le monde a eu la varicelle, c'est pas un problème. Et le zona ne peut pas donner le zona.
Quels sont les symptômes?
Mais le premier, souvent dans 30 % des cas environ, avant que les vésicules ou les boutons sortent, il va y avoir une douleur qui va être là. Mais comme il n'y a rien d'autre, souvent cette douleur-là, on va l'attribuer à plusieurs autres maladies, que ce soit une pierre au rein, que ce soit un caillot au poumon ou beaucoup d'autres problèmes. Et habituellement, après 24-48 heures, là, les vésicules, les boutons vont sortir.
Mm-hmm.
Les boutons vont souvent être accompagnés d'une douleur qui est assez importante pendant l'épisode de zona, qui va durer l'épisode de zona environ 2 semaines, où il va y avoir des vésicules qui vont se développer tranquillement, qui vont finir par éclater, par couler, puis après ça, par croûter. Puis quand ça devient croûté, là, à ce moment-là, c'est plus contagieux. Ça ne peut pas donner la varicelle. Puis les vésicules et les boutons vont guérir là, progressivement sur environ 2 semaines.
Okay.
Mais le problème principal, c'est la douleur qui est là durant l'épisode aigu, qui elle, peut être très incommodante.
Et ça fait toujours mal, le zona, Dr. Lucier?
Ça fait presque toujours mal. Parfois, surtout chez les personnes plus jeunes, ça fera pas mal, mais ça fait presque toujours mal.
Oui. Et quand vous parlez de vésicules, moi, ce que je vois, c'est un petit peu des cloches, comme quand on se brûle, c'est ça?
Exactement ça. Une vésicule, c'est une cloche.
Et la douleur ressemble-t-elle un peu aussi à une brûlure ou un picotement?
Non, parce que la douleur est causée par le dommage au niveau du nerf. Donc, comme le virus est au niveau du nerf, ça tue le nerf, si on veut. Puis quand on a un nerf qui est mort, on le voit dans le diabète, par exemple, les gens qui ont des problèmes de nerf à cause du diabète, le nerf meurt. On a comme une douleur qu'on appelle neuropathique, qui est causée par un problème de nerf. C'est comme une douleur d'un nerf fantôme, si on veut.
Mm-hmm.
Donc, c'est une douleur qui peut rester là parce que le nerf est mort. Donc, c'est vraiment une douleur qui est plus un genre de brûlure. Souvent, les gens vont dire que c'est comme si on leur avait arraché la peau. C'est comme s'ils avaient gros coup de soleil. La façon dont on peut le comprendre le mieux, c'est comme un gros coup de soleil. Donc, ils ne peuvent pas tolérer les vêtements et même le vent peut faire mal, même l'air peut faire mal quand ça touche la peau.
Et j'imagine que quand on est touché par le zona ou un de nos proches qu'on voit souffrir, on veut traiter le plus vite possible, le plus tôt possible. On fait comment? C'est comment le traitement?
En fait, le traitement qui existe, il y a plusieurs traitements. Le traitement principal, c'est de donner des antiviraux, qui sont l'équivalent des antibiotiques, mais pour les virus. Mais pour que ce soit efficace, il faut le donner dans les 72 premières heures.
Oh.
Donc, il faut que la personne qui a un zona puisse aller voir le médecin très, très, très rapidement pour que ce soit donné très, très rapidement pour pouvoir le traiter. Ceci dit, les avantages de le traiter, le zona avec les antiviraux, c'est que la douleur puis les cloches là, peuvent durer moins longtemps, peuvent durer quelques jours de moins.
Mm-hmm.
Mais pour la plupart des gens, si c'est seulement ça, c'est des vésicules, c'est des cloches qui vont durer pendant 2 semaines, ça guérit et c'est fini, on n'en entend plus parler. C'est un moindre mal, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ceux qui ont beaucoup de douleurs, ceux qui sont le plus âgés, qui vont avoir une douleur qui peut rester toute la vie après.
Mm-hmm.
C'est que comme le nerf est détruit, cette douleur de nerf fantôme dont on parlait, elle va durer toute la vie. Puis, ce qu'on essaie de faire en donnant les antiviraux le plus rapidement possible, c'est de prévenir cette douleur-là. Parce que si on le donne rapidement, à l'intérieur de 72 heures, le risque d'avoir la douleur qu'on appelle mm-hmm. la douleur post-zona est beaucoup moins élevé.
Très rapidement, Dr Lucier, parce que le temps file, il y a un vaccin qui existe, le Zostavax. Est-ce qu'il faut qu'une personne qui a, je ne sais pas, 50, 60 ans et plus se fasse vacciner? C'est important?
Bien, c'est important parce que ça peut prévenir le zona. On sait que ça diminue les risques de zona d'environ 40 %. Ça diminue aussi les risques d'avoir la douleur post-zona. Donc, si quelqu'un... c'est un vaccin qui n'est pas remboursé, malheureusement. Donc, si quelqu'un qui a entre plus que 50 ou plus que 60 ans a les moyens de se le payer, là, le vaccin, c'est quelque chose qui vaut la peine parce que ça peut diminuer les risques de complications du zona puis les risques de zona dans le futur.
Mmh. Docteur David Lucier, vous êtes médecin gériatre et directeur de la clinique de gestion de la douleur chronique de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et demain, vous donnerez une conférence gratuite à 16 heures. C'est à l'amphithéâtre, le groupe Mauricie de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Alors, vous pourrez prendre un petit peu plus de temps pour expliquer comment on prévient, on traite le zona.
Effectivement.
Mais merci beaucoup, ça nous a beaucoup éclairé tout de même aujourd'hui.
Merci à vous.
Au plaisir.
Au revoir.
Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde de Marianne Paquette au micro. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre au canalm.org. On est en rediffusion à 17h. C'est toujours un plaisir de vous lire ou de vous entendre. N'hésitez pas. On se retrouve demain. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Bye bye.